France Culture.
Une cascade d'affaires déferle en ce moment des deux côtés de l'Atlantique. Du côté Est, c'est-à-dire chez nous en Europe, la Commission européenne a annoncé mercredi que les géants américains Apple et Meta, détenteurs de Facebook et Instagram entre autres, allaient être soumis à des amendes de l'ordre de 200 millions d'euros pour Meta et 500 millions d'euros pour Apple en raison d'infractions à la concurrence. Du côté Ouest, les procès s'enchaînent aussi aux États-Unis, celui de Google entamé ce lundi et celui de Meta le 14 avril dernier. Qui s'est ouvert sur ces mots de l'avocat de la Federal Trade Commission, le gendarme de la concurrence aux États-Unis. Depuis plus de 100 ans, la politique publique américaine insiste sur la nécessité pour les entreprises d'être compétitives si elles veulent réussir. Si nous sommes ici, c'est parce que Meta a rompu l'accord. Des procès présentés comme historiques, donc chacun à leur manière, mais avec un point commun. Ces batailles juridiques sont menées au nom du respect de la concurrence, au nom du règlement sur les marchés numériques en Europe ou de la loi antitrust aux États-Unis. Le tout premier est récent, l'autre fait partie des piliers institutionnels américains depuis la fin du 19e siècle, mais les deux racontent une double histoire, celle qui a vu les géants de la tech prendre une place que d'aucuns qualifient de démesurée sur les marchés et celle qui constitue désormais à réduire cette quasi-omniprésence. Mais dans un contexte où les relations commerciales sont pour le moins tendues et où le risque d'escalade règne, les géants de la tech représentent bien davantage que leurs propres intérêts et la politisation de la bataille de la concurrence pourrait bien rebattre les cartes. Alors quelles pourraient être les conséquences économiques de ces offensives juridiques? Les marchés détenus par les géants numériques pourraient-ils connaître des transformations profondes au nom du respect du droit de la concurrence? L'heure est-elle venue pour les fameux GAFAM d'assumer leur statut supposé de monopole et de faire face à la menace du démantèlement de la Federal Trade Commission américaine à l'autorité de la concurrence européenne? Entendez-vous l'écho ouvre ce nouveau chapitre de la guerre des GAFAM face à la concurrence dans cette émission préparée et programmée par Bruno Barada et Valentin Grille, réalisée par Xavier Joly et Cassandre Puel et mise en onde aujourd'hui par Grégory Wallon. Et trois invités sont autour de la table ronde d'Entendez-vous l'écho aujourd'hui. Jamal El Hassani, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste tech pour le média Context. Vous suivez de très près ces enjeux liés à la concurrence entre très nombreux autres. Joël Toledano, vous êtes professeur émérite d'économie associé à la chaire gouvernance et régulation de l'université Paris-Dauphine. On vous doit un ouvrage, GAFA de point, reprenons le pouvoir, point d'exclamation, paru aux éditions Odile Jacob. Bonjour et bienvenue à vous.
Bonjour.
Et enfin, Anne Belon, vous êtes avec nous à distance depuis les États-Unis où vous avez assisté au procès Meta et où vous suivez celui de Google. Vous êtes politiste, maîtresse de conférences à l'Université de technologie de Compiègne. On vous doit également un ouvrage intitulé « L'État et la toile, des politiques de l'Internet à la numérisation de l'action publique » paru aux éditions du Croquant en janvier 2023. Merci à tous les trois d'avoir accepté cette invitation. Alors Jamal El Hassani, dans quelle mesure cette accumulation de tensions juridiques mais aussi économiques par voie de fait des deux côtés de l'Atlantique, aux États-Unis et en Europe, est-elle exceptionnelle? Ce n'est pas la première fois que les géants du numérique sont dans le viseur des autorités chargées de la concurrence, qu'elles soient européennes ou américaines, mais la situation actuelle est-elle particulièrement tendue pour eux aujourd'hui?
Ça dépend de quel côté de l'Atlantique on se trouve. Pour ce qui se passe aux États-Unis, il y a un risque de démantèlement qui vise Google et Meta, pour des raisons un petit peu différentes. Pour Meta, il est reproché d'avoir acquis Instagram et WhatsApp dans le but unique de tuer la concurrence et donc de faire d'anciens concurrents des filiales. Et pour Google, c'est le monopole sur le marché de la recherche et de la publicité en ligne qui est mis en cause. Et donc là où ça pourrait devenir historique, c'est en fonction des remèdes qui seront proposés pour remédier à cette situation dès lors qu'il est établi qu'il y a un problème. Donc pour Google, il a déjà été établi qu'il y avait une forme d'abus de position dominante et de monopole sur ces marchés. Et donc maintenant, il y a un procès pour discuter des remèdes. Et donc dans le cadre de ces remèdes, il est envisagé que Google doive se séparer d'Android, qui est son système d'exploitation mobile, et de Chrome, qui est son navigateur, qui sont deux portes d'entrée sur le web très très importantes et des sources de revenus énormes pour Google. Donc ça aurait des conséquences extrêmement importantes sur les activités et les revenus de Google, son poids aussi dans l'écosystème publicitaire. Et pour Meta également, il est envisagé aussi une séparation d'Instagram et ou de WhatsApp. Et donc, de la même manière, ça aurait des conséquences très graves sur les revenus et sur leur poids dans l'écosystème publicitaire.
Puisqu'on imagine bien que l'idée, ce serait de le séparer bel et bien, et que les deux n'aient plus aucun lien, n'aient plus rien à voir l'un avec l'autre. Pas question de les récupérer par la suite, mais nous verrons effectivement ce qu'il en est. Et puis, la probabilité que cela advienne véritablement, c'est aussi une des questions qui se posent aujourd'hui. Joël Toledano, ce qui se joue en ce moment pourrait effectivement redéfinir la structure et donc le modèle économique des concernés, au premier rang desquels on trouve Meta et Google. C'est une réelle possibilité.
Alors, ce qui se joue d'abord, je pense qu'il y a quelque chose d'exceptionnel qui s'est passé, c'est quand même qu'une même entreprise soit condamnée à un an d'écart pour monopolisation sur le marché américain. Je crois que ça, c'est une vraie première. C'est pas un scoop au sens intellectuel du terme, si je puis dire. Fondamentalement, ce qui est attaqué aujourd'hui était décrit, plus ou moins précisément, mais aux États-Unis dans un rapport qui date de la fin des années 2020, en Europe par des rapports ou de la Commission européenne ou au Royaume-Uni. Donc, le scoop, c'est pas ce qui est attaqué, c'est pas l'objet. Ça a été déjà condamné, d'ailleurs, avec des modalités différentes en Europe. Donc, par contre, une même entreprise, deux fois de suite, en un an d'un quart, ça, je pense que c'est un scoop total. Alors, maintenant que j'ai dit ça, quelles vont être les conséquences? C'est une autre histoire, parce que par-delà, effectivement, la procédure classique qui se hâte particulièrement lentement aux États-Unis, vous avez une situation politique dont le moins qu'on puisse dire, c'est que personne ne sait dire ce qui va se passer le lendemain. Donc, dans ce cas précis aussi, indépendamment des risques institutionnels, si je puis dire, de séparation potentielle, etc., sur lesquels, effectivement, on pourra revenir, il y a une indétermination de plus qui est le comportement du président Trump, pour ne pas le nommer.
Et de fait, et de son administration derrière lui.
Alors, par contre, ce qui se passe en Europe, ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est un non-événement. Enfin, c'est un non-événement au regard de l'ensemble du processus, mais là encore, je pense que vous souhaitez y revenir plus longuement. Mais voilà.
On va tout à fait essayer de comprendre ce qui s'est joué à la fois au sein de l'Union européenne et avec la Commission européenne, et puis ce qui se joue et qui est de nature assez différente effectivement aux États-Unis. Anne Belon, on a pu lire dans la presse des déclarations tout de même faisant état de procès historiques aux États-Unis, notamment en ce qui concerne Google. La responsable du département antitrust du ministère américain de la justice, Gail Salter, a estimé qu'avec le procès Google, c'est l'avenir de l'internet qui est en jeu, rien que ça. C'est effectivement le sentiment général dans les procès auxquels vous avez assisté?
Alors, je pense qu'en effet, les procès en cours, enfin, le côté américain est assez impressionnant et on assiste à un tournant historique qui, ceci dit, a commencé il y a maintenant 5 ans, hein, puisque les plaintes déposées par la FTC, donc le gendarme de la concurrence américain, datent de la première plainte de 2019. Donc, on est vraiment sur des processus de long terme. Et là où, en fait, il y a une convergence avec le processus européen, c'est qu'on a deux régions du monde particulièrement importantes du point de vue de cette économie qui ont réalisé à la fin des années 2010 que ces géants avaient pris peut-être un peu trop de pouvoir et que l'hégémonie qu'elles détenaient sur les marchés numériques pouvait poser un certain nombre de problèmes. Avec des réponses en Europe qui sont passées plutôt par la régulation, donc avant le DSA, DMA, donc le DSA c'est le pendant du DMA sur les réseaux sociaux, il y a eu aussi le RGPD, donc le Règlement Général sur la Protection des Données, qui a imposé aussi un certain nombre d'amendes de l'ordre de celles dont on va parler du DMA aux géants, hein. Meta en a particulièrement fait les frais. Et aux États-Unis, on a plutôt une sorte de revitalisation d'un droit de la concurrence qui végétait un peu autour d'une approche qui visait à dire, au fond, tant qu'il n'y a pas d'effet prix ou de problème d'efficacité des marchés très évidente, on va autoriser un certain nombre d'acquisitions et d'expansions de ces groupes. Donc, de ce point de vue, oui, il y a un tournant dans les deux régions du monde, un tournant dont les conséquences sont pour le moment plus importantes, enfin, les conséquences potentielles sont bien plus importantes du côté américains, mais qui partent toutes les deux en fait de ce même constat que ces géants du net qu'on a vu un peu fleurir sans crier gare sont peut-être devenus un peu trop grands.
Joël Toledano, je vous voyais réagir.
Oui, c'est qu'ils partent du même constat effectivement sur les rapports de 2019-2020. Que nous ayons un mouvement de convergence, ça, je ne crois pas du tout. Je ne crois pas du tout, parce qu'effectivement, ce que sont les procédures européennes en cours sont dans des logiques de régulation et de mise en conformité dont on peut, à court terme, et c'est pour ça que je pense qu'il y a le grand événement va être de voir si on tire les leçons de ce qui est en train de se passer en Europe pour voir si c'est la bonne méthode ou s'il faut quand même un peu la faire évoluer. En ce qui concerne les États-Unis, vous demandiez tout à l'heure si ces procès annonçaient un bouleversement de l'Internet. Je crois que ce que nous montre le procès Meta, c'est à quel point Internet il s'est bouleversé en permanence. Il y avait un article du New York Times, je ne sais pas si c'est hier ou aujourd'hui, je l'ai lu ce matin, qui expliquait à quel point ce que racontait Zuckerberg ou ce que racontaient les acteurs ou ce que racontait d'ailleurs la FTC de ce qui se passait en 2012, 2013, 2014 paraissait extraordinairement lointain. Et que les modèles économiques de l'époque ont extraordinairement changé et les algorithmes ont extraordinairement changé. Et ce qu'étaient les réseaux sociaux a beaucoup changé. Donc il y a une sorte de, en ce qui concerne, si je puis dire, l'évolution de l'Internet, ce que nous montrent aussi tous ces procès en faisant de la rétrospective, c'est à quel point Internet change rapidement et à quel point la régulation se trouve confrontée à cette différence de vitesse entre son propre rythme et le rythme de l'évolution de l'Internet. Et donc, quand vous dites les modèles économiques, s'il y avait, au fond, des coupages vont changer. En tout état de cause, ils sont en train de changer. Alors évidemment, ce ne sera pas les mêmes changements, mais ces procès nous montrent ça en ce qui concerne ce qu'on voit aux États-Unis, c'est comment ça change et comment, évidemment, en tout état de cause, l'évolution de l'IA fait que ça va changer. Mais évidemment, le changement ne sera pas le même en fonction des solutions apportées d'un point de vue juridique.
Vous avez parlé d'une différence de temporalité, Joël Toledano. Je vais nécessairement, à un moment de cette émission, vous poser la question de savoir si cette différence de temporalité s'exprime sous la forme d'un retard, notamment du point de vue de la Commission européenne par rapport aux pratiques de ces géants du numérique. Mais avant cela, Jamal El-Hassani, vous souhaitiez réagir.
Oui, il faut rappeler que la Commission et les autorités nationales de concurrence en France ont des outils similaires à ceux que les États-Unis utilisent aujourd'hui. Le règlement sur les marchés numériques, le DMA, c'est un complément très récent, mais la Commission a eu aussi tout un tas de procédures et de procès antitrust. Vous avez Android qui a été condamné à 4 milliards 3 d'amende en 2018, Google Shopping à 2 milliards 4 en 2017, Apple un peu plus récemment à 1 milliard 8 en 2024. Donc il y a aussi en Europe un historique de procès antitrust avec des amendes assez faramineuses. Et le but du DMA, en fait, est de compléter ça en prohibant par défaut certaines pratiques. Pour justement accélérer les procédures, parce que les procès antitrust sont très très longs, ça peut durer des années, et donc la philosophie c'est d'ouvrir un peu les écosystèmes de ces plateformes en prohibant un certain nombre de pratiques par défaut, ce qui permet d'agir plus rapidement.
C'est intéressant, Joël Toledano, parce que ça nous permet aussi de faire une autre distinction, et encore une fois sur la nature finalement de ce qui est reproché entre guillemets à ces géants du numérique, qui certes sont les mêmes acteurs des deux côtés de l'Atlantique, mais pas pour ils ne sont pas, on va dire, interrogés pour exactement la même raison. Finalement, ce qui, on va dire, chiffonne les États-Unis n'est pas la même chose qui embête l'Union européenne.
Oh si, bah, quand vous regardez
L'Europe a plutôt validé les acquisitions de Meta dans l'absolu. Ce sont des pratiques, comme le disait à l'instant Jamal El-Hassani, ce sont plutôt des micro-pratiques qui sont envisagées.
Vous avez raison, mais je pense que si l'Europe les a validées, c'est qu'elle n'avait pas les mêmes informations qu'a réussi à obtenir, et les témoignages qu'on est en train d'obtenir en ce moment, effectivement, pendant le procès Meta, actuellement. Je ne pense pas qu'avec ces informations-là, la Commission aurait pris les mêmes décisions. Donc, si vous voulez, et c'est ce qu'on avait vu dans le rapport Cicilline de la fin des années, de fin 2020, je crois, fin octobre ou décembre, je ne sais plus, de 2020, c'est qu'il y avait une mine d'informations parce que pour deux raisons essentiellement. La première, c'est que on est avec tous ces acteurs dans des systèmes d'omerta extrêmement violents. Tout, pour une raison très simple, hein, c'est que quand vous êtes entreprise utilisant Google, vous êtes à la merci d'un comportement pas très visible, mais dangereux, de celui qui vous héberge, entre guillemets. Vous êtes dans son écosystème, vous vivez dans son monde, et avant de le dénoncer, bah, vous êtes mal, quoi. Il faut vraiment... Et c'est l'un des problèmes. Donc ça, c'est la première chose. Et il y a eu des témoignages que n'avaient pas eu les autres. Et deuxièmement... Effectivement, on se retrouve maintenant dans des situations où c'est pas exactement les mêmes sujets, mais fondamentalement, c'est plutôt parce que le DMA n'est pas encore appliqué dans sa totalité. Sinon, les comportements qui sont attaqués ou qui ont été condamnés aux États-Unis sont grosso modo les mêmes que ce que vous trouvez en Europe, mais ce que vous trouverez aussi dans d'autres pays, parce que ce n'est pas les seuls pays où ces comportements ont été condamnés.
Anne Belon, cela nous dit aussi, cet accès aux données, cet accès aux informations, nous dit aussi quelque chose de la façon dont se déroulent ces procès aux États-Unis. Au niveau européen, ça a été beaucoup moins visibilisé, ce ne sont pas de grands procès publics comme c'est le cas aux États-Unis. Là aussi, il y a une très forte différence dans la façon dont sont menées finalement ces attaques juridiques contre les géants du numérique.
Alors oui, je voulais réagir sur plusieurs choses. Donc, d'abord sur les acquisitions d'Instagram et WhatsApp. Elles ont d'abord et avant tout été validées aux États-Unis par la même FTC qui les condamne aujourd'hui. Donc en effet, hein, il y a de toute façon eu un changement de perspective sur ces acquisitions depuis 2012-2014. Le second point, c'est qu'en effet, on a deux outils juridiques qui sont pas du tout les mêmes. D'un côté, on a un droit de la concurrence, qui d'ailleurs est un petit peu différent aux États-Unis et en Europe, qui s'exerce en fait à travers de longues enquêtes qui aboutissent à des procès. Donc on a ceux américains aujourd'hui, mais comme le rappelait bien Jamal Hassani, on a eu des très gros des très grosses amendes, hein, qui n'ont rien à voir d'ailleurs avec les petits montants relatifs infligés à Meta et Apple par le DMA ces derniers temps, avec là plutôt de l'ordre de 1 jusqu'à quasiment 5 milliards pour Android en 2018.
Et c'est vrai qu'on s'en rend pas forcément compte, mais 200 et 500 millions d'euros, ça représente une infime part de leur chiffre d'affaires. Ça reste
voilà, c'est pas grand-chose.
4 milliards aussi,
le précise. Bon.
Mais parce qu'on n'est pas dans la même dynamique. Et ça, je pense que c'est aussi très important de le rappeler, c'est que le DMA vise justement est une réponse régulatoire apportée aux limites du droit de la concurrence et à son exercice dans l'Union européenne pour obtenir plus de flexibilité. Si on prend l'exemple de l'amende qu'a écopée en fait Meta, donc 200 millions, qui concerne son alternative payante à la publicité ciblée sur ses deux principaux réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Donc la Commission européenne a estimé que cette alternative n'est pas une vraie alternative, qu'elle n'est pas assez explicite ou ne donne pas assez de choix aux consommateurs. Ce que vise la Commission à travers ces sanctions, c'est avant tout une mise en conformité. Donc la logique du DMA, c'est vraiment une logique qu'on dirait de compliance, c'est-à-dire de établir en fait que ces acteurs sont ceux qu'ils sont aujourd'hui, mais que du coup d'orienter leurs pratiques de marché pour éviter qu'elles soient anticoncurrentielles. Et ça vise à répondre à ces problématiques qu'évoquait Joël Toledano de lenteur du processus anticoncurrentiel dans un environnement numérique qui est très rapide. Après, la différence du point de vue du droit de la concurrence entre les États-Unis et l'Europe, c'est que déjà le droit de la concurrence américain, il est beaucoup plus vieux, donc c'est aussi un droit très jurisprudentiel. Donc il y a les effets en fait des précédents, les conclusions des précédents procès ont beaucoup d'impact sur la manière dont les juges décident. Et là, on assiste vraiment à un tournant qui est très impressionnant au sein de la FTC et de la Cour de Columbia où ont lieu les procès, et aussi que ce sont des grands procès publics. Et tous ces documents dont parlait Joël Toledano, qui ont servi en fait à motiver la plainte de la FTC, ce sont en fait des millions de milliers d'emails, de rapports internes à l'entreprise qui ont été analysés pendant presque 5 ans par le gendarme de la concurrence et qui aujourd'hui fournissent des preuves plus ou moins accablantes dans ce procès auquel sont confrontés les témoins que sont Mark Zuckerberg, Sheryl Sandberg, qui était la numéro 2 de Meta, mais aussi tout un tas d'acteurs de l'économie numérique, pour prouver qu'il y a eu intention d'étouffer la concurrence au moment de ces deux rachats.
Et effectivement, ces mails sont très souvent cités et sont, en tout cas paraissent, nous n'avons pas encore l'issue du procès, mais paraissent effectivement assez accablants. Joël Toledano, vous souhaitiez...
Oui, juste pour compléter, parce que ça va bien dans ce sens-là, au début du premier procès Google sur le search, Google a essayé effectivement de cantonner l'information qui sortait. Et il y a eu une bagarre juridique qui a été la première bagarre juridique auxquels les médias se sont impliqués et qui a fait que Google n'a pas pu arriver à continuer à convaincre le juge, parce qu'au début il l'avait convaincu, que les informations restent secrètes. Et ce passage qui s'est opéré sur le premier procès a eu un rôle extrêmement important, parce que ce qui était resté quelque chose d'assez cantonné est devenu un événement politique majeur, ce qu'il n'arrivait pas à être au début, et les autres ont suivi. Enfin, je veux dire, les autres procès sont d'emblée... Je ne sais pas s'il y a eu aussi cet essai, j'ai pas suivi d'assez près, mais en tout état de cause, maintenant, on est rentré dans cette phase où tout est sur la table.
Et on va revenir aussi sur l'importance de la politisation de certaines figures aussi, au sein notamment de la FTC. Jamal El Hassani, vous souhaitiez réagir?
Peut-être un exemple sur les preuves accablantes ou ce qu'on peut apprendre lors de ces procès et dont les autorités européennes n'étaient pas forcément au courant. Une des révélations que j'ai trouvées les plus intéressantes et les plus fracassantes, c'était toute cette partie du procès qui consistait à comprendre la manière dont Google maintenait son moteur de recherche par défaut dans tout un tas de systèmes d'exploitation via des accords financiers. Et donc on savait via des estimations qu'Apple payait plusieurs dizaines de milliards de dollars par an, mais on ne connaissait pas les modalités. Et donc on a appris en fait que Google versait à Apple une commission de 35% sur les revenus publicitaires de toutes les recherches passées sur l'écosystème d'Apple. Et donc, en fait, Apple était directement intéressé financièrement à l'exploitation des données personnelles de ses utilisateurs, alors qu'elle a plutôt un discours de protection de ces données-là. Voilà, donc c'est ce genre de révélation qu'on peut aussi avoir via ces procès.
Ce sont les fameux deals qui sont au cœur, au cœur aussi de ces procès. Anne Belon, pour retracer aussi cette chronologie, parce que c'est vrai qu'on parle de plusieurs procès dans un procès, en tout cas, avec une chronologie relativement raccourcie, mais également très longue, puisqu'on parle aussi depuis 2019-2020. Là, très concrètement, quels sont les enjeux du procès ouvert lundi, sachant que Google a déjà été reconnu coupable en août 2024? De quoi il est question là avec ce procès en ce moment?
Alors, ce qu'expliquait très bien Jamal Hassani, c'est qu'en fait, il y a un premier procès qui vise à établir la responsabilité juridique de Google dans une tentative de monopolisation de son moteur de recherche. Donc ça a été établi en novembre dernier. Et aujourd'hui, le nouveau procès qui s'est ouvert, qui est aussi extrêmement passionnant, puisque lui, il vise à établir ce qu'on appelle les remèdes ou les solutions
donc potentiellement les sanctions
à l'établissement de cette responsabilité qui a été du coup bien établie par le juge. Et ce qui rajoute encore une pièce dans ce jeu de l'incertitude, c'est que de toute façon, il est très probable que Google fasse appel de ces deux décisions. Donc en fait, Google là est en train d'attendre les résultats du procès sur les remèdes pour faire un appel plus général de la première décision sur sa responsabilité de monopolisation. Donc oui, on est dans des processus extrêmement longs. Ce à quoi vise à répondre le DMA qui est là-dessus dans une temporalité un peu plus grande. Par exemple, sur l'amende qui vise Meta, voilà, il y a une mise en conformité qui pourrait avoir lieu dans les mois qui viennent. Donc, c'est pas du tout, c'est pas les mêmes outils, en fait, régulatoires.
DMA pour Digital Market Act. Oui. Je le précise à nouveau, Joël Taladono, effectivement, il y a un risque qu'il y ait appel et que cela ne débouche pas sur grand chose.
Non, il n'y a pas un risque, c'est une certitude.
Très bien.
Après, la question, après cet appel, si c'est le même type de décision, vient la question de savoir ce que les responsables politiques vont faire. Mais ce qui est encore un autre choix, il faut avoir en tête qu'au moment, ce n'est pas que des affaires du président Trump, au moment où Microsoft avait été condamné à être découpé en rondelles, c'est un accord avec le président Bush qui a transformé cette scission et ce démantèlement et qui a fait qu'il n'y a eu que des mesures qui étaient censées résoudre le problème, mais de façon bien plus modérée.
Alors, vous l'avez dit, il y a des liens très forts, finalement, entre décision juridique et puis contexte politique, ce qui nous amène à nous interroger sur, fondamentalement, au nom de quoi cette lutte-là, ces procès-là sont menés. Alors, je vous propose d'écouter à ce propos Lina Khan, qui présidait la Federal Trade Commission depuis 2021, qui a dû quitter son poste en janvier 2025. Elle s'exprimait là le 2 février 2025.
Les lois antitrust remontent à 1890 avec le Sherman Act et ensuite le Clayton Act, puis le FTC Act. Ces lois ont vraiment été pensées pour s'assurer que nous ayons une économie compétitive et juste, où les citoyens puissent avoir une chance. Mais aussi, c'était s'assurer de la protection de notre démocratie contre des pouvoirs économiques trop concentrés, donc contre une oligarchie. Donc ces lois sont là depuis des décennies. Mais à partir de Reagan, il y a eu une bascule et on s'est éloigné d'une application stricte de ces lois. Donc, nous avons vu des décennies de concentration non contrôlée et de monopoles qui ont fait du mal aux Américains. Ça les a rendus plus pauvres, ça a permis aux entreprises de leur faire payer plus en les rémunérant moins, d'évincer des petites entreprises, de réduire l'innovation et d'appauvrir des communautés.
The founders and those who really were formative in passing the original antitrust laws were really concerned that
l'esprit originel des lois antitrust venait de l'inquiétude que des pouvoirs économiques trop concentrés minent les libertés fondamentales.
And if what we care about in America
et si aux États-Unis, nous voulons que les gens soient libres et que nous les protégions de l'exercice arbitraire du pouvoir, cela veut dire que nous devons avoir des contre-pouvoirs dans notre sphère gouvernementale, mais aussi dans la sphère commerciale. Car si nous avons une soi-disant démocratie qui autorise les monopoles à intimider et corrompre les gens, alors cela va miner leur liberté dans la vie de tous les jours. Il y a une citation célèbre de Sherman qui a dit que si nous avons renversé notre roi, ce n'est pas pour être gouverné par les autocrates du commerce. Donc, il y a vraiment cette idée forte que protéger notre liberté nécessite des règles, pas seulement dans la sphère politique, mais aussi dans l'économie.
France Culture, entendez-vous l'écho? Aliette Ovin.
Voilà, on entendait à l'instant Lina Khan qui présidait donc la Federal Trade Commission. Anne Belon, et on pourrait remonter aux origines, quelle est l'ambition au tout début de ce fameux Sherman Act que Lina Khan évoque à la toute fin du 19e siècle et qu'est-ce qui préside à la création aussi de la Federal Trade Commission en 1914 lorsque cette agence est créée à ce moment-là?
Alors, Lina Khan, là, elle refait une histoire rapide du droit antitrust qui, je le rappelle, a été inventé aux États-Unis. Donc, en effet, il est inventé dans ce qu'on appelle le Gilded Age, donc la période dorée des États-Unis qui voit l'émergence d'immenses entreprises et notamment la Standard Oil Company dirigée par Rockefeller. Et à ce moment-là, un certain nombre de membres du Congrès américain s'inquiètent des effets politiques possibles de la domination d'un homme comme Rockefeller sur tant de parties du marché américain. Ils vont faire adopter le Sherman Act qui est littéralement une limite en fait du pouvoir des grandes entreprises au nom, et c'est là où elle a raison, hein, pas seulement de rationalité économique pour une plus grande compétitivité des marchés, mais aussi pour des raisons politiques.
Et en fait, l'INACAN, elle représente un mouvement aux États-Unis qui s'appelle lui-même les néo-brandésiens. Donc en fait, qui reprennent toute cette analyse qui date de la fin du 19e siècle et du début du 20e, et qui a notamment, qui théorise, on va dire, le droit américain autour d'une figure très importante d'avocat qui s'appelle Louis Brandeis, et qui estime que le rôle de la FTC, c'est pas simplement de s'assurer que les marchés fonctionnent bien, sont bien compétitifs, mais aussi qu'il y a en fait une limite au pouvoir que peuvent acquérir les grandes entreprises, parce que l'excès de pouvoir d'une grande entreprise peut avoir des conséquences sur la démocratie. Or, cette approche, elle a été, dans l'histoire du droit de la concurrence américain, elle a été battue en brèche, en fait, un petit peu avant Reagan, par une autre école de pensée qui était l'école de Chicago et un mouvement qu'on a appelé le mouvement droit et économie, qui, lui, a considéré en fait que la FTC faisait un peu n'importe quoi, n'avait pas de rationalité économique derrière ses jugements et qu'il fallait introduire des éléments de mesure beaucoup plus neutres pour exercer le droit de la concurrence. Et c'est vrai que depuis Reagan, donc, il y avait eu un peu ce basculement des jugements anticoncurrentiels, bah, plutôt dans une logique droit et économie, ce qui est venu renverser, en partie parce que ça a été commencé en fait avant elle, la nomination de l'INACAN comme chair de la FTC. Et là où ça devient intéressant, je me permets juste d'ajouter quelque chose, c'est que aujourd'hui, en fait, il y a un alignement assez étrange entre ces nouveaux brandésiens qui sont un peu ce qu'on appelle la New Left aussi américaine, donc une gauche un peu à gauche du parti démocrate, et des gens très à droite de Trump, et notamment J.D. Vance, qui d'ailleurs a déclaré en 2024 que s'il y avait bien une seule personne à sauver de cette horrible administration de Biden, c'était l'INACAN. Donc ça montre aussi cette espèce d'alliance qui est assez difficile, je pense, à comprendre du point de vue du côté européen, entre cette droite qui déteste les géants de la tech et cette gauche qui souhaite des démantèlements pour limiter le pouvoir économique de ces géants.
Et c'est vrai qu'on ne s'en rend pas forcément compte ici en France, mais l'INACAN incarne véritablement c'est une figure politique aussi. On ne pense pas forcément la même chose de Benoît Cœuré, par exemple, ici, de l'autorité de la régulation. C'est quelqu'un qui incarne effectivement un mouvement très, très politique et pas forcément plus neutre. Joël Taillé-Danel, vous souhaitiez
réagir. Oui, il l'incarne, mais pour plusieurs raisons. Enfin, la première, c'est qu'effectivement, avant d'être nommée à la FTC, très très jeune, trentaine d'années.
À peine, oui.
C'était une académique et qu'elle a produit un article qui est devenu très célèbre à propos d'Amazon. Et pourquoi c'est très important de s'être attaquée à Amazon plus que tout autre, c'est que via Amazon, elle s'attaquait à ce sujet qui bloquait les contentieux en concurrence jusqu'à présent, qui était la gratuité du côté des consommateurs. Le verrou qui a vraiment sauté aux États-Unis dans les dernières années, ça a été ce que représentait, puisque théoriquement la concurrence c'était pour le consommateur, à partir du moment où c'était gratuit, on n'arrivait pas à
trouver son avantage.
Enfin, c'est difficile à justifier. C'était vraiment et attaquer justement Amazon en montrant qu'Amazon, qui était théoriquement, alors après il y a d'autres débats, mais le meilleur marché, posait des problèmes de concurrence extrêmement importants. Cet article très très structuré, très a joué un rôle important dans certes le mouvement néo-brandésien, mais après, pour compléter et avant même que la droite, si je puis dire, type Trump et J.D. Vance viennent en accord, vous avez eu en réalité, la social-démocratie américaine, si on peut appeler ça comme ça, qui s'y est aussi rattachée parce que il y a toute une série de travaux qui montrent l'immense concentration du marché américain sur tous les marchés et le fait que vous avez des prix, évidemment, on le sait pour la santé, mais il n'y a pas que pour la santé, pour toute une série de sujets, et que donc il y a un vrai problème autour de la constitution dans tous les secteurs et pas seulement dans les secteurs du numérique, d'acteurs très oligopolistiques qui extraient des rentes. Enfin, la situation dans les télécoms où, grosso modo, les prix sont le double de ce que c'est chez nous. Je vais un peu à la serre.
Le secteur pharmaceutique aussi, qui a fait partie
des... C'est le secteur pharmaceutique. Enfin, donc, vous avez, du côté, en tout cas, de Biden, même dans sa partie la plus modérée, cet aspect qui a effectivement fait que Lina Khan a été nommée en même temps que était nommé au Department of Justice, qui est l'autre autorité de la concurrence. Les Américains ont cette bizarrerie d'avoir un peu, selon les sujets, c'est un peu technique, deux autorités de la concurrence. Et Timou, qui était le troisième larron, qui était nommé à la Maison-Blanche. Et donc, cet ensemble de trois personnes représentait en réalité les différentes tonalités de ce mouvement qui visait à lutter. Ça, il y a eu beaucoup d'initiatives de Biden en ce sens, contre l'oligopolisation du marché, voire sa monopolisation d'un certain nombre de secteurs, avec des prix extrêmement élevés. Là-dessus, effectivement, toute une partie des républicains à la J.D. Vance s'y est associée, dans ce mouvement, restait plus que, si je puis dire, les républicains plus traditionnels soutiennent les grandes entreprises. Mais là, il y a aux États-Unis, et vous le retrouvez dans beaucoup d'enquêtes, etc., un mouvement quand même qui cherche, il n'y arrive pas beaucoup actuellement, à lutter contre les très grandes entreprises et leur pouvoir de marché.
Jamel Alassani, vous souhaitiez réagir, mais j'aurais aussi une question pour qu'on comprenne bien, finalement, ce qui se situe au fondement aussi de cette antitrust à l'américaine. Est-ce que c'est la position dominante en tant que telle, ou est-ce que ce sont les moyens détournés et plus ou moins légaux pour y parvenir qui sont véritablement dans le viseur, et surtout au nom de quoi? On a parlé à la fois du droit des consommateurs, mais aussi de la liberté d'entreprendre. Qu'est-ce qui prévaut dans cette logique-là?
Joël Toïdana avait mentionné la difficulté de la gratuité, et c'est vrai que pendant un long moment, ça a été très compliqué pour les Américains d'établir qu'il y avait un problème. Dès lors que c'était gratuit, c'était dur de prouver que le consommateur était lésé. Il n'y avait pas forcément le même regard envers, par exemple, des entreprises qui seraient le maillon d'une chaîne et qui pourraient, elles, être lésé. Ce que je trouvais intéressant dans ce dont on parlait avant, c'est que finalement, on voit que l'administration Trump et l'administration Biden sont plus proches l'une de l'autre dans leur politique antitrust, enfin, que de l'administration Obama, qui était beaucoup plus clémente avec les GAFAM, notamment des procédures contre Google qui avaient été enterrées. Et donc, on voit que pour Google et pour Meta, la difficulté, ils sont bien conscients de ça, et donc ils essaient de ramener les procès sur un terrain politique. Et donc, en fait, Google et Meta placent leur défense du point de vue de l'affrontement avec la Chine. Et donc, une partie de leur argumentation consiste à dire, si vous nous divisez, si vous scindez nos entreprises, vous allez nous affaiblir face aux géants chinois de la tech, et donc c'est pas dans l'intérêt stratégique du pays. Et donc on sort un petit peu du débat juridique sur y a-t-il un abus de position dominante ou pas, et on va de plus en plus vers un terrain politique.
Alors là, vous m'offrez une transition parfaite, puisque je voulais justement vous faire écouter la façon dont Donald Trump s'était positionné vis-à-vis de ces sujets. Alors, c'était le 16 octobre 2024, l'année dernière. Il avait estimé qu'un démantèlement de Google, justement, risquerait d'affaiblir l'entreprise, et notamment face à la concurrence chinoise.
Google est méchant avec moi. Ils sont méchants, très méchants. Je peux parler depuis mon point de vue. S'il y a 20 histoires positives sur moi et 20 négatives, vous ne verrez que les négatives. Et j'ai appelé le PDG de Google l'autre jour et je lui ai dit que je recevais beaucoup de bonnes histoires ces derniers temps, mais on ne les trouve pas sur Google. Je pense que c'est truqué. Je pense que Google triche, tout comme le gouvernement Biden. Ils sont devenus très puissants et je leur donne beaucoup de crédit pour cela. Mais la discussion, c'est de comprendre comment est-ce qu'ils sont devenus aussi puissants. Or, se poser la question est dangereux, car nous voulons avoir de grandes entreprises américaines face à la Chine sans que celle-ci n'ait ce type de grandes entreprises. Et en ce moment, la Chine a peur de Google. Et la Chine est un pays très puissant, un peuple très intelligent.
Voilà, on entend là tout le poids aussi des personnalités politiques, en l'occurrence celle de Donald Trump, je le disais, le 16 octobre dernier. On voit là qu'il y a l'idée de ne pas affaiblir les entreprises américaines. Ça rentre aussi dans son idéologie plus générale, dans son idéologie industrielle notamment. Il faut aussi mentionner que ces acteurs-là sont des représentants de l'industrie américaine et de ce point de vue-là pèsent aussi ainsi Jamal Hassani.
Oui, bah, cet extrait, c'est un petit peu toute la dissonance cognitive qu'il peut y avoir chez les républicains sur le sujet, c'est-à-dire que d'un côté, en effet, c'est des grandes entreprises, c'est des joyaux de la couronne américaine, des éléments de puissance qui ont des liens avec l'armée, avec les services de renseignement, qui jouent un rôle très très important. Et en même temps, ce que les républicains peuvent reprocher à Meta et à Google dans une moindre mesure, c'est d'avoir eu à une période une modération ou des algorithmes de classement qu'ils estimaient être défavorables aux républicains, défavorables aux thèses républicaines, aux sujets de prédilection des républicains, et donc soit de les censurer, soit de les enterrer, de leur accorder une moindre place dans leurs écosystèmes.
Cela dit, Anne Belon, on a commencé à le mentionner avec Joël Toledano, mais lorsque le procès contre Google s'ouvre en septembre 2023, Google qui fait alors face au département de la justice, le fameux qu'on évoquait également, et 11 États américains, c'est la première fois que l'État américain amène un géant de la tech devant un tribunal depuis 1998, la fameuse année du procès de Microsoft qui avait été accusé d'abuser de sa position dominante et celle de Windows sur les ordinateurs PC pour y imposer le navigateur Explorer, pour qui depuis n'a pas forcément connu le succès que, on imagine, Microsoft souhaitait. De ce point de vue-là, Anne Belon, on peut tout de même dire qu'il y a une forme de retournement, qu'il y a une forme aussi de prise de conscience et que ça a des conséquences très concrètes.
Oui, tout à fait. Et notamment, Joël Toledano a cité les deals, hein, ce que les Américains appellent les sweetheart deals, donc qui sont des moyens d'éviter les procès en payant et en s'accordant sur un certain nombre de remèdes pour éviter un procès public en concurrence. Le Wall Street Journal, deux jours après l'ouverture du procès de Meta, a sorti l'information que Mark Zuckerberg avait proposé de payer 30 milliards, en fait, pour éviter un procès. Donc déjà, on voit qu'on est bien loin des amendes infligées par la Commission européenne, mais aussi qu'en fait, ils n'ont pas forcément réussi. Enfin, je pense que l'administration Trump est aussi très erratique, et pour eux, ils n'ont pas tout de suite réussi à trouver les bons créneaux d'entrée. Après, l'interview que vous nous faisiez écouter est tellement emblématique, en fait, des errances stratégiques de Donald Trump, qu'on ne sait pas finalement dans quel côté la balance, sa folie va pencher sur ce sujet. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, dans les négociations commerciales américaines, la question de la régulation des géants va potentiellement jouer. Et là, quand on se situe, plutôt quand on enquête du côté de la Commission européenne, les responsables de ces nouvelles régulations DMA, DSA, et je pense encore plus de l'AI Act, donc de la réglementation sur l'intelligence artificielle, sont bien conscients que ça va être un objet aussi de négociations politiques très fortes entre les deux pays.
Alors, nous l'avons dit, Lina Khan n'est plus à la tête de l'agence fédérale chargée de l'application et des règles de la concurrence. Lui a succédé Andrew Ferguson, le patron de cette fameuse agence de protection des consommateurs, entre autres, c'est un de ses rôles, la FTC. Il a été nommé par le chef d'État républicain donc en janvier 2025. Il s'exprimait justement sur le rôle de cette FTC, c'était le 13 mars dernier.
Il s'agit d'une administration en faveur du libre marché. Mais l'un des moyens les plus importants par lesquels nous maintenons la liberté de nos marchés dans ce pays, c'est de faire respecter rigoureusement la loi antitrust. Si nos marchés sont infectés par des monopoles, par des collusions, alors ils ne sont pas libres. Ils ne fonctionnent pas pour les Américains ordinaires. Le président Trump a remporté cette élection parce que les Américains ordinaires en avaient assez de la façon dont le pays fonctionnait. Et je considère qu'il est de mon devoir à la Commission fédérale du commerce de faire respecter pleinement la législation antitrust pour protéger les Américains ordinaires. Mais j'ai aussi parlé avec beaucoup de gens du monde des affaires. Et l'une des objections qu'ils avaient à l'égard du régime antitrust de l'administration précédente est qu'ils n'avaient jamais vraiment compris quelle était la situation. Il y avait beaucoup d'incertitudes. Et je considère qu'il est de mon devoir d'assurer qu'il y ait de la clarté réglementaire. Et voici ce que je veux dire à ce sujet. Si nous avons une fusion ou une conduite qui viole les lois antitrust et que je pense pouvoir le prouver devant un tribunal, je vais poursuivre en justice. Et s'il n'y a rien, ok, on s'en ira. La Commission fédérale du commerce ne va pas essayer d'utiliser des moyens légaux alambiqués pour bloquer les fusions et espérer que les gens meurent. Ce temps-là est terminé. Si nous pensons que cela viole les lois, nous allons intenter une action en justice, et si ce n'est pas le cas, nous nous retirerons et laisserons les marchés faire leur travail. Nous voulons que l'économie se développe, nous voulons qu'elle soit dynamique, innovante. C'est ainsi que nous allons sortir de cette crise de la dette. Et nous voulons jouer un rôle en appliquant les lois antitrust.
Andrew Ferguson, qui est donc actuellement à la tête de la Federal Trade Commission. Joël Toledano, on a parlé des personnalités, on a parlé d'un potentiel changement d'air, ERE, on va dire. Mais est-ce qu'il faut aussi mentionner quelque chose de beaucoup plus conjoncturel qu'on a commencé à effleurer, à savoir ces tensions commerciales? Est-ce que c'est en ce nom-là que finalement il peut y avoir, on pourrait envisager, on peut craindre une forme de laxisme ou en tout cas une forme de relâchement vis-à-vis des politiques anti-monopolistiques?
Est-ce que votre question porte sur les États-Unis ou sur l'Europe?
Toujours sur les États-Unis, on arrive bientôt à l'Europe.
Pardon, c'était... moi, ce que j'entends dans ce qu'il dit, mais je peux tout à fait me tromper, c'est qu'il parle davantage là-dedans de ce qui s'est passé en matière de fusion-acquisition. Il y a eu un durcissement de ce côté-là qu'on n'a pas toujours vu parce que, en réalité... Le signal qui a progressivement été donné, c'est que ce serait pas aussi facile qu'avant. Et donc, on a assisté quand même à toute une série reculades de la part des acteurs économiques sur le terrain des fusions-acquisitions, sachant que... c'est pour ça que mon interprétation va plutôt dans cette direction, mais je ne suis pas certaine que ce soit pas plus large. En tout cas, là-dessus, c'est clair qu'il y a eu une politique qui a dissuadé de comportements qui, quand on regarde ce qui se passait avant avec la multiplication des acquisitions, et je ne parle pas du numérique spécifiquement, je parle des autres secteurs d'activité. Il y a eu des tas de choses en matière de santé, en matière de technique médicale, en matière, enfin bon, et dans la mode, il y a même eu une fusion qui a été curieusement empêchée, alors que on voit le marché pertinent n'était pas tout à fait évident, mais qui donc tout ça, je pense, il y a eu effectivement sur ces secteurs-là un retrait dans les mécanismes, dans les procédures de fusion-acquisition. Mais peut-être est-ce plus large et faut-il l'interpréter autrement?
Jamel Alassini, vous souhaitiez réagir. Et je rappelle quand même aussi que ces grands acteurs de la tech qui sont à la tête de ces géants du numérique sont des gens qui ont parfois massivement soutenu, et massivement dans le sens financièrement massivement, qui ont soutenu Donald Trump, qui était présent lors de son investiture et qui, depuis aussi son arrivée au pouvoir, ont perdu énormément d'argent, notamment en termes de capitalisation. Est-ce qu'il y a une forme de pression qui peut s'exercer de l'un à l'autre?
Alors, pour au sujet des déclarations d'Andrew Ferguson, il me semble qu'il s'adresse un petit peu à Donald Trump en disant ça, et que c'est aussi une manière de montrer une rupture avec l'administration précédente, puisque la FTC est une agence qui est politisée, et donc on nomme toujours quelqu'un à sa tête de sa couleur politique. Et donc c'est aussi une manière de dire que les démocrates ont un petit peu mal fait les choses, même si dans d'autres déclarations, il a dit qu'il poursuivrait l'action de Lina Khan en matière d'antitrust, et qu'il avait plutôt rien à y redire, et qu'il considérait que les grandes entreprises numériques pouvaient menacer les libertés publiques. Donc quand même une forme de filiation ou de prolongement avec ce qu'a dit Lina Khan. Pour ce qui est des financements, en effet, on a vu toutes les grandes entreprises de la tech se rallier à Donald Trump, financer également sa cérémonie d'investiture. Dans quelle mesure ça a eu une influence directe sur l'action de la FTC?
Dans quelle mesure aujourd'hui il y a une forme de pression de la part de ceux qui se présentent aussi comme des industriels pour tenter de dire il y a eu ce soutien-là, maintenant il s'agit de nous soutenir au moins d'un point de vue législatif, normatif, ça peut être une hypothèse.
Il y a une forme de pression politique, comme je le disais tout à l'heure, sur l'enjeu hein, presque géostratégique de se placer dans la grande confrontation des États-Unis avec la Chine, et donc finalement de présenter ça comme une folie géopolitique de s'enlever des atouts de puissance, des attributs de puissance. L'autre forme de pression politique, c'est plutôt que ces entreprises-là demandent aux États-Unis de faire pression sur l'Union européenne pour mettre à bas les différents règlements qui régulent la tech et demander une forme de réparation pour les amendes dont ils font l'objet, notamment dans le cadre du règlement sur les marchés numériques, le DMA.
Alors on va justement voir comment ce DMA et des amendes qui ont été décidées très récemment, il y a deux jours, vis-à-vis de certains de ces GAFAM, rentrent aussi dans ce cadre de la guerre commerciale où là encore, tout est question de conjoncture, mais aussi de personnalité, de politique plus large. On parle de tout cela juste après Giants, puisque c'est bien de cela dont il est question, interprété ici par Marie Lister et Pete Joseph. La, 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 la.
Vous êtes bien à l'écoute de France Culture, entendez-vous, l'écho consacre sa table ronde du jour aux GAFAM face aux procès qui sont menés au nom de la concurrence aux États-Unis mais aussi en Europe et aux conséquences de telles initiatives. Et nous sommes toujours en compagnie de Jamal El-Hassani, journaliste pour le média Contexte, de Joël Toledano, professeur émérite d'économie, et enfin d'Anne Belon, politiste qui est avec nous à distance depuis les États-Unis. Le 23 avril, avant-hier, donc, la Commission européenne a imposé ses premières amendes dans le cadre du Digital Markets Act, le fameux DMA dont on parle depuis le début de cette émission. La législation européenne sur les marchés numériques est entrée en vigueur en 2023, donc tout de même relativement récente. C'est une première. Donc les deux premières entreprises visées sont, nous l'avons dit, Meta, avec une amende de 200 millions d'euros, Apple d'un montant de 500 millions d'euros. Jamal El-Hassani, ce sont des montants faibles, de l'ordre de 0,13% du chiffre d'affaires de Meta et Apple. Est-ce qu'il faut lire ce très faible montant dans le contexte des tensions commerciales, avec cette idée de dire on ne va pas frapper trop fort dans l'espoir qu'on ne fera pas trop fort en retour?
La Commission s'en défend, bien évidemment. Il faut savoir qu'il était possible d'aller jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial de ces entreprises-là. Et la Commission a aussi justifié ça par la période assez courte étudiée, c'est-à-dire une période d'un an, ce qui n'est pas forcément...
Oui.
Puisque le DMA est entré en vigueur récemment, et donc les faits incriminés portaient sur une période relativement courte. Il y a évidemment des observateurs qui ne peuvent pas s'empêcher d'imaginer que le contexte politique a joué, et puis notamment parce que la Commission a abandonné deux autres affaires en cours, et parce que les amendes sont relativement faibles.
Et parce que la commissaire aux technologies numériques, Ena Virkkunen, n'était pas présente, pas plus que Teresa Ribera, ce qui a envoyé des signaux, on va dire.
Voilà, donc il y a un contexte qui peut donner l'impression que la Commission essaie de se faire discrète.
Anne Belon, vous souscrivez à cette idée d'une forme de discrétion, ou en tout cas cette idée que la guerre commerciale prend aussi cette tournure-là, qui serait un caractère plus normatif, on va dire, qu'on rabaisse peut-être nos exigences normatives en Europe pour éviter une réprimande ou en tout cas une surenchère au niveau commercial?
Alors je pense que c'est un risque, plutôt un risque à venir, et on a déjà vu les États-Unis faire un peu ce type de pratique. Notamment, ça a été étudié par Anu Bradford, qui l'avait bien montré, par exemple, sur
l'abaissement des régulations sur la pétrochimie dans le cadre de négociations commerciales avec les États-Unis. Pour le coup, je ne verrais pas forcément cette dimension dans les amendes qui viennent d'être infligées, puisque pour moi, elles sont tout à fait dans le prolongement de la logique du DMA, qui n'est pas forcément celle d'une très longue enquête pour pratique anticoncurrentielle qui aboutirait à des amendes de l'ordre de plusieurs milliards d'euros jusqu'à 10% du chiffre d'affaires, mais qui est beaucoup plus processuelle, c'est-à-dire qui vise davantage une mise en conformité avec un certain nombre d'obligations qu'établit le DMA et donc du coup qui peuvent s'accumuler. Et là, on est plutôt d'ailleurs dans des amendes hein, qui sont proches de ce qu'on a vu avec le RGPD, c'est-à-dire on essaie de réorienter les pratiques de ces grands acteurs. Tant qu'ils ne le font pas, on les pénalise de plus en plus s'ils ne se mettent pas en conformité, mais on est dans une logique plus un peu interactive et processuelle. Donc non, je pense que ces amendes, d'ailleurs, j'en ai été plutôt positivement surprise parce qu'elles vont dans le sens d'une mise en œuvre du DMA. C'est plutôt sur les renoncements qui ont été faits pour les autres entreprises qu'il y aurait des inquiétudes à avoir.
Joël Taladone, où vous souhaitiez
réagir ? Moi, ce que je crois, c'est que ce qui est important, je suis d'accord avec mes deux collègues sur les montants, pas très élevés, mais c'est normal, en gros, c'est ce qui ne se passe pas par ailleurs. Rien sur le Digital Service Act, formidable, rien.
Il n'y a pas que le DMA, il y a aussi le DSA, il faut le mentionner.
DSA, et donc tout le discours très haut qu'on a tenu, par exemple contre X Twitter, silence radio, il ne se passe pas de réflexion globale sur ce à quoi on assiste. Ce que ça dit quand même, puisqu'on est en train d'en parler, c'est que vraiment, il faut une autorité indépendante de régulation du numérique et il ne faut pas mélanger la régulation du numérique avec les relations politiques qui sont bien compliquées. Ce que ça dit quand même, c'est qu'il n'y a rien eu de nouveau depuis les 6. Il n'y en a eu que 6 de lancement d'enquête de non-conformité. Juste 6. Alors qu'il y a plusieurs centaines, quand vous multipliez le nombre de plateformes par le nombre d'obligations, il y a plusieurs centaines d'obligations, rien. Est-ce que ça veut dire qu'Amazon est complètement conforme ? J'ai un petit doute. Donc moi, ce qui me frappe au fond dans ce qui est en train de se passer, c'est pour ça que je crois qu'il faut profiter du moment où on parle de simplification pour surtout ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, point numéro un. Voir effectivement ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ce que je trouve formidable, moi, dans ces deux textes que sont le Digital Market Act et le Digital Service Act, c'est que vous n'avez aucun critère de succès. Qu'est-ce que ça voudrait dire que ça marche ? La Commission s'est mise dans une logique de conformité et n'a aucun indicateur pour voir si effectivement il y a plus de concurrence, si effectivement la modération fait son œuvre. Donc je pense qu'il est temps de faire des bilans. Il y a déjà beaucoup de choses apprises. La Commission a fait des choses très bien, mais il faut vite faire le bilan. On va s'occuper de la simplification, mais il faut une bonne simplification qui fait que on ne régule pas les toutes petites entreprises comme les plus grandes, etc., comme ça se passe par exemple sur le règlement sur la RGPD. Donc moi, tout ça, parler de ces 200 et des 500 millions qui représentent rien pour les entreprises, même si elles vont hurler, bien évidemment, et si le pouvoir politique américain va hurler, c'est très bien, mais ce dont il faut s'occuper maintenant, c'est de la suite.
Et la suite, on pourra la suivre bien sûr sur le Média Contexte pour ce qui concerne la simplification et le suivi de cette loi Omnibus. Jamel Hassani, vous souhaitiez réagir et ce sera le mot de la fin.
Eh bien, mot de la fin, il y a un autre angle mort pour l'instant dans le cadre du DMA, c'est que on n'a pas encore désigné on appelle ça des contrôleurs d'accès, donc des entreprises qui ont un pouvoir important sur un marché. On n'a pas encore désigné de contrôleurs d'accès pour le cloud, donc Microsoft, Amazon et Google, qui sont évidemment attendus. Et alors qu'ils sont en train de tenir un pouvoir de plus en plus important parce qu'il y a des liens très forts entre le cloud et l'intelligence artificielle. Et donc ça commence à être politiquement de plus en plus problématique.
Et un sujet qu'on continuera de suivre ici, bien sûr, dans Entendez-vous l'écho. Un grand merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission.